Tous connectés, une interview, Albert Agnel.
On a commencé des collections, on vendait des collections d'étrangers, donc on ne produisait rien. Puis je suis parti la même année en vacances en Inde. Et mon associé, son père, il avait été contact avec l'Inde. Et je suis arrivé là-bas. Mais quand je suis arrivé, c'est vraiment à la sortie de l'avion. Hein. Bon, ils m'ont pris, eux, c'est très business. Hein. Alors, on va faire des chemises. On a fait la chemise grand-père. À l'époque, c'était Jean Store. Hein. Le changement qui est BCBG. Et dans les années 75, c'était encore très cool, papa cool. Et on a lancé en Belgique la chemise grand-père. Un col officier, quoi. Et c'était la folie. Il n'y a pas d'autre mot. On était vraiment, les rois de la chemise, et spécialement celle-là. Quoi. Et on vendait uniquement dans les jean stores. Alors, une fois qu'il y a eu vraiment une folie pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté les robes, on a graduellement ajouté des autour de ce produit-là, mais principalement en Inde. Parce qu'on avait été voir des usines en Belgique pour faire des chemises grand-père, qui faisaient encore vraiment la chemise grand-père, les gens dormaient avec, hein, et partaient travailler avec. Ça, j'en reviens pas, en 75, en Flandre. Mais c'était trop bien fait. Et nous, il fallait qu'on ait ce côté baba cool et des défauts. Et les gens voulaient, c'était des jeunes, hein, ils voulaient vraiment la chemise un peu rustique. Hein. Donc ça n'allait pas. Donc on a fait pendant quelques années. Et puis, il y a eu ce changement, ça c'était extraordinaire. On a refait, on a refait notre showroom, complètement refait. Et ce jour-là, on a reçu des chemises que Button Down, donc la chemise comme j'ai maintenant, lignée blanc et rouge.
Si vous pouvez décrire un peu votre chemise.
Le bouton col, la D'accord. chemise classique américaine, je dirais. Hein. Et on met cette chemise en vitrine, rayée rouge et blanc. Et ça correspondait exactement au mode BCBG.
Et la particularité qu'ils avaient dans leur chemise, c'est qu'ils avaient mis un écusson.
Ah ouais, dans le dos.
Ils avaient mis un écusson dans le dos que ouais. Personne ne faisait.
Ouais, on avait déposé ça. Non, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a mis cette chemise en vitrine. En une heure ou deux après, on s'est fait une nouvelle clientèle. Ça correspondait au BCBG. Nous vendait au jean store, c'était plus cool. Celle-là était bien faite, rouge et blanc. Et on s'aperçoit que des gens viennent comme Marie-Claire, donc des boutiques qui n'ont rien à voir avec notre clientèle. Et on a démarré en quelques heures. Hein. L'affaire tournait très très bien. Et là, on s'est mis une nouvelle clientèle. Et on s'est retrouvé une situation qu'on ne pouvait pas vendre dans des jean stores et des boutiques comme 20, comme Marie-Claire, ou un peu partout, le même produit. Donc on avait la marque au départ, ça s'appelait Monroe. On vendait, la firme s'appelait Melvin, et notre produit s'appelait Monroe. Que c'était, voilà. Donc, on a dit, mais qu'est-ce qu'on va employer comme nom? On doit vraiment faire deux clientèles, on ne peut pas continuer comme ça. Et alors, un représentant dit, mais employer le nom de la firme Melvin. Donc, on a créé une nouvelle ligne, Melvin. Et pendant des années, on avait deux collections différentes, une jean store et une boutique. Et puis, alors, voilà. Donc, et après, ça s'est développé. Et on a arrêté le jean store parce que le jean s'est globalement diminué. Et on avait trop de problèmes de clientèle. Un qui râlait parce qu'il voulait avoir l'autre chemise. On dit, on arrête, on ne fait plus que la boutique. Et assez étonnamment, c'est ensuite la dame qui a pris le dessus. Et on arrêtait l'homme. Voilà, ça dans les grandes lignes. Et puis, mais nous, il y a une différence par rapport au triangle. Ça, c'est assez fondamental. C'est que nous, on a travaillé une collection. Donc, nous, on travaillait sur collection. On avait un showroom qui était là par hasard. Mais on ne vendait pas à tout le monde. Donc on avait nos clients fixes et on travaillait avec des représentants. Donc notre showroom, c'était du réassort, pas de la vente en gros, comme ça se faisait au triangle. Mais il se faisait qu'on se trouvait là par hasard. Donc notre idée, ça a toujours été, on travaille sur collection, on crée des collections avec des représentants.
Et qui est-ce qui crée les collections?
Des stylistes. Alors nous, c'est spécial, on a eu le même pendant 35 ans. Donc ça, c'est très rare d'avoir le même styliste pendant 35 ans. Et on avait à côté de ça d'autres stylistes, mais le styliste principal, qui donnait l'élan à la firme, c'était le même.
Ce styliste, c'était un Belge?
Français.
Ah, c'est un Français.
Il venait X fois par mois à Bruxelles.
Vous étiez combien, plus ou moins, à travailler?
Au début, on était très peu, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas, une dizaine, je crois.
Voilà.
Au début, on était deux. Donc, ou trois, puis la société est vite partie. On était deux pendant quelques temps, puis trois, et puis on a augmenté à 4, 5, 6, 7, puis terminé à 50. Après, on a travaillé partout. Partout, Chine, Inde, Turquie, partout. Donc, mais puis on a arrêté l'Inde. Pour pour revenir de temps en temps.
Mais et quand vous dites que vous êtes allé partout, vous êtes allé vous inspirer partout
On ne s'est pas inspiré, on s'est trouvé des ateliers surtout. C'est-à-dire que l'Italie, c'était très fort les pulls, la Turquie, fort les robes. Il y a vraiment. Il y a des pays qui sont très spécialisés. Hein. Je ne dis pas qu'ils peuvent faire de tout. Il y avait le t-shirt au Portugal. Alors on a ouvert un atelier au Maroc. On faisait toutes nos chemises en Belgique. Cet atelier disparaissait à vue d'œil. Hein.
En Belgique, les ateliers disparaissaient.
Ah oui, disparaissaient.
Et vous, Monsieur Bramley, également, vous êtes voyagé un peu.
Moi, pour revenir d'abord à la marque rhétorique, donc avec, si vous voulez, cette publicité qui m'a aidé énormément, les gens de licence ont commencé à me téléphoner. À l'époque, les gens achetaient beaucoup de magazines, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, j'ai toutes les licences, que ce soit des classeurs, des chaussettes, des chaussures, maquillage. La marque a pris beaucoup d'ampleur. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil des gens de chez Toyota. Disons, on a fait une petite sélection en Belgique dans les noms et vous avez été choisi pour faire une voiture. Moi, je croyais que c'était une blague d'un copain, parce que pour moi, c'était trop fort. Ça, c'était le summum. J'arrive d'Israël sans rien, il y a Toyota qui veut faire une voiture. Donc, j'ai même dit, je me rappelle, Michel, ne dis pas de conneries. Je croyais que c'était Michel Dralfa. J'ai dit, Michel, ne dis pas de conneries. Et le monsieur qui me dit, non, monsieur, je suis le délégué de Toyota, on voudrait vous rencontrer. Et là, bon, voilà, et effectivement... Ils ont fait une Toyota, quand ils me l'ont montré en vrai, je crois que mon corps allait s'écrouler.
Si vous pouvez un peu la décrire, cette Toyota.
Ben, c'était la Corolla, et elle était toute verte dans mes couleurs, et ils voulaient que je signe, d'ailleurs cette signature-là était dessus, et ils m'ont dit, voilà, on ne va pas en faire beaucoup, on va faire juste 3800 voitures. C'était déjà... Et on va vous faire un budget. À l'époque, je crois que c'était 90 millions de francs belges.
Un budget, c'est-à-dire ?
Un budget publicitaire. Et il me parlait de 1 million de folders dans les boîtes aux lettres en Belgique, des séquences dans les cinémas à l'époque.
Et vous avez dû acheter la voiture ou vous ont donné la voiture ?
Ils m'en ont offert deux. Que j'ai offert à des filles qui travaillaient chez moi d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était le deal qu'on avait. Et je leur ai fait le packaging dans la voiture, c'est-à-dire le classeur, le porte-clés, parapluie et un jogging que mes fournisseurs ont contribué. Voilà. Tout ça, c'était un plaisir.